Bonsoir à tous, Eric Manirakidza à la présentation. Un lieu et place de Sporama. VOA Afrique vous propose un dossier spécial sur le Mali. Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, et notre envoyé spécial Idriss Fall passent en revue 3 ans de pouvoir du président Ibrahim Boubacar. C'est à l'occasion de l'ouverture du studio de VOA Afrique dans la capitale malienne.
Nous sommes à Bamako pour depuis le studio VOA de Bamako pour ce spécial 3 ans du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Dans le studio VOA de Bamako, nous avons Idrissa Fall. Nos deux invités sont M. Mamadou Bougri Mamadou Diarra, qui est le représentant de la majorité sur ce plateau. Il est du parti IMRDA, président de la jeunesse de cette formation politique. Alousseni Di Abba Maïga, 4e vice-président phare en Kaouli, je vais dire comme ça, c'est plus simple. Alousseni, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Bougri.
Très heureux d'être parmi vous.
Idrissa Fall, bonjour.
Oui, bonjour à l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent à Bamako et dans le monde.
Alors, nous allons commencer ce débat par rapport aux festivités, si on peut le dire, de 3 ans d'exercice du pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta. Bougouri, si on vous disait de dire de façon succincte, hein, les 3 ans du BK, ça peut se résumer à quoi selon vous en termes de satisfaction?
Et en termes de satisfaction, d'abord, permettez-moi de remercier vos auditeurs et auditrices de la radio VOA Afrique. Et moi, je dis aujourd'hui, il y a une lueur d'espoir. Il y a une lueur d'espoir parce que pour qui connaît la crise que le Mali a observée en 2012, aujourd'hui, il y a des signes positifs. Ces signes positifs se traduisent par les réformes engagées au niveau de l'armée. Ces signes positifs se traduisent également par les lois au niveau de l'Assemblée de la lutte contre la corruption, qui aujourd'hui, le Mali était sérieusement affecté. Et encore, il y a des lueurs d'espoir parce que, vu le programme de la modernisation de l'agriculture que le président Ibrahim Boubacar a engagé, et en vue d'une grande productivité agricole pour le pays, ce n'était vraiment pas gagné d'avance, mais aujourd'hui, les signes apparaissent, il y a la lueur d'espoir. Et je pense que pour ces quelques raisons, on peut dire que ça se passe bien pour l'instant au Mali.
Alousseni Abba, je ne sais pas si vous partagez les avis de M. Diarra, qui pense qu'il y a espoir, qui se dit confiant à l'avenir.
Absolument pas du tout. Quand j'écoute camarade Bougouri, j'ai l'impression d'écouter le président de la République. Je l'ai écouté hier soir au cours de l'interview qu'il a accordée sur les ondes de l'ORTM pendant 2 heures de temps. Et très franchement, à la fin de l'émission, j'ai eu l'impression d'avoir perdu mon temps. Je vous le dis très franchement. Parce que j'ai écouté un président qui n'a fait aucune annonce, qui n'a défini aucun cap, qui concrètement n'a donné aucune vision, n'a donné aucun chiffre, n'a fait aucune annonce. Il s'est livré, comme à son habitude, à des incantations. Il a dit plusieurs fois, Inch'Allah, ça ira. Mais très franchement, je suis déçu. Et je pense que mes compatriotes aussi le sont. Ce qu'on attend du président, c'est qu'après 3 ans de mandat, qu'il nous dise très concrètement ce qu'il a fait, ce qu'il veut faire pour les 2 années à venir, la vision, le cap qu'il veut faire. Après cela, je voudrais, au plan, disons, sécuritaire.
Alors, Bougri, l'aspect sécuritaire est sur toutes les lèvres. L'insécurité, rien qu'à voir dans les rues de Bamako, on sent qu'on n'est pas en sécurité. Et chaque jour, les Maliens se plaignent. Et la dernière attaque djihadiste, c'était dans la région de Mopti, où la ville de Boni, la petite localité de Boni, a été occupée pendant 48 heures par des assaillants, même si l'armée est revenue. Sur le plan sécuritaire, c'est sur cet aspect surtout qu'on attendait le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta.
Merci, M. Traoré. Je pense que, justement, parce que d'abord, il faut que nous conviendrons tous ensemble que la sécurité, elle n'est jamais maîtrisée à 100%. C'est des efforts qui doivent être déployés dans ce sens. Et moi, je pense qu'à ce niveau, on n'y manque pas. Parce que, déjà, et c'est ce que j'ai dit, avec la réforme militaire engagée par rapport à la programmation de la loi militaire, je pense que c'était déjà un véritable coup politique que le président a annoncé. Au-delà de cela, nous sommes là, nous sommes en train de suivre les formations que nos forces de sécurité bénéficient en longueur de journée. Et à ce niveau, nous savons que la situation est très difficile. La situation est très difficile, mais aujourd'hui, au vu des efforts déployés, je pense qu'on est en train de répondre face à l'ennemi, parce que qui est dans une situation. Ce qui se passe au Mali, c'est une situation asymétrique où on ne fait pas face à des vrais des ennemis.
Mais des pays comme le Nigeria ont trouvé des solutions. Pourquoi pas le Mali?
Mais le Nigeria,
ils font face à de manière plus renforcée.
Le Nigeria avec Boko Haram, on est en train de voir. Et aujourd'hui, le Niger n'a pas pu, comment dirais-je aussi, contenir. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la dynamique, comme en son temps ça avait été dit, de voir au niveau de la sous-région, en vue d'une vision globale.
Ah ben, est-ce que vous êtes satisfait de l'état dont on est sécurisé, la manière dont on procède à la sécurisation des villes, malgré les multiples attaques auxquelles on assiste, dont la dernière a été celle de Boni?
Évidemment non. Très franchement, disons-nous la vérité. Aujourd'hui, le président Ibeka, ça fait 3 ans qu'il est au pouvoir. Avant qu'il accède au pouvoir, moi je parle de faits concrets. Parce que nous devons faire un bilan. Je pense que ça ne doit pas être des discours abstraits. Moi, je parle concrètement. Quand Ibeka venait au pouvoir, Kidal était dans les girons du pays de Mali. Très concret. Kidal. La situation sécuritaire, on parlait à l'époque des trois principales régions du Nord. Gao, Tombouctou, Kidal. Aujourd'hui, le constat est clair. Kidal n'est plus dans les girons du Mali. Nous avons complètement perdu le contrôle de cette ville, de la région. L'insécurité se généralise. On a eu le cas de la région de Sikasso et Kimisili. On a eu le cas de Massina, à Ségou. On a eu récemment Nampala. Et il y a 3 jours, c'est Boni. Moi, je parle de faits concrets. Vous êtes au pouvoir depuis 3 ans. Depuis 3 ans, dites-nous ce que vous avez fait. Nous, les Maliens, nous sommes sur notre fait.
Mais est-ce que vous aussi, vous coopérez? Parce que le président n'est pas laissé là gérer cette crise, hein, vous l'avez dit. Hein, et quel a été l'apport, vous, de l'opposition? Quelles ont été vos propositions?
Toutes les fois où nous avons été sollicités, nous avons donné un...
Mais vous ne devrez pas attendre à être sollicité.
Non, nous n'avons pas attendu. Parlons-en. Lorsqu'il a été question d'engager les discussions par rapport à l'accord, pendant que l'accord était en projet déjà, nous avons exprimé un certain nombre d'inquiétudes. Et rappelez-vous, au niveau des phares, nous avons très clairement dit que le projet d'accord que vous vous apprêtez à signer est porteur de germes de l'intégration, de la désintégration du pays. Nous avons dit attention. Et on n'a pas été écoutés. Et plusieurs fois, nous avons mis l'accent sur l'importance d'engager un dialogue national pour ce qui concerne cette question précise. Parce que nous sommes arrivés à la conclusion que le régime tout seul ne peut pas. Et plusieurs fois, nous avons donné un avis pertinent sur toutes ces questions-là. Et malheureusement, à chaque fois, on nous dit, j'ai été élu à 77%, c'est moi qui gère le pays. Ok, d'accord. C'est vous qui êtes en train de gérer le pays pendant 3 ans. Maintenant, dites-nous ce que vous avez fait.
Alors, Bougri, pendant plus de 3 ans, hein, on peut le dire, Ibeka a été élu par 77% des Maliens. Mais la question majeure, la préoccupation majeure, disons, des Maliens, c'était la gestion de la crise au Nord. Aujourd'hui, on voit que l'accord ici, après 8 ans de processus, 8 mois de processus d'Alger, tarde à se concrétiser sur le terrain. Même actuellement, il y a des problèmes sur le terrain. Les belligérants, tout le monde les connaît, c'est 2 parties. C'est l'ACMA d'un côté et la plateforme de l'autre côté. Qu'est-ce que l'État est en train de faire concrètement pour que cet accord puisse être appliqué?
Monsieur Traoré, j'allais en venir. Parce que d'abord, comprenons-nous qu'aujourd'hui, à 3 ans de parcours, ce n'est pas l'étape du bilan. C'est l'étape d'évaluation. Et je pense qu'à ce niveau, nous pensons que le cap est admissible dans la mesure où aujourd'hui des accords de paix n'étaient pas gagnés d'avance. À Alger, ce que nous avons eu, c'est un accord pour la paix et la réconciliation. C'est un processus qui est en cours. Ce n'est pas une paix gagnée d'avance parce qu'on était très très loin de cette paix tant souhaitée. Donc il fallait déployer d'énormes efforts à ce niveau. Et chose que le gouvernement de la République du Mali a travaillé ardemment pour cela. Et avoir la paix et concrétiser la paix, c'est aussi des étapes. parce que par rapport au projet d'accord de paix que nous avons eu, qui n'est plus un projet, nous pensons que c'est un consensus qui peut nous permettre d'aller à l'aboutissement heureux de sa mise en œuvre. Et je crois que nous sommes en train de travailler dans ce sens. Et dans ce sens, nous pensons que nous avons besoin de toutes les forces vives de la nation pour cela. Et aux acteurs politiques, de savoir que c'est à nous de jouer à ce niveau, parce que l'accord, c'est des dispositions. Et c'est au peuple de savoir que, à partir de cet accord, parce que quand il y a un accord, c'est qu'il y a des compromis. Et
je vous permets de vous interrompre, de poser une question. Gamou, qui est haut responsable de l'armée malienne et en même temps membre de la plateforme Gacha, a rencontré à Niamey, sous l'égide du premier ministre nigérien, Angabas Akintala, qui est un des hauts parleurs ou dirigeants de la CMA. Ils ont conclu un accord là-bas. Deux ou trois jours après, ce sont ces mêmes groupes qui venaient de signer un accord qui se sont battus à mort à Kidal. Donc ça c'est un. C'est-à-dire que même les gens qui avaient signé l'accord de paix dit d'Alger continuent sur le terrain à se taper dessus. Je ne suis que simple observateur extérieur. Quand la maison brûle, tous les enfants doivent s'unir pour éteindre le feu. Au Mali, de l'autre côté, j'ai l'impression que l'opposition politique parfois tend aussi à politiser la crise en tirant à boulets rouges sur Ibrahim Boubacar Keïta, alors que c'est le moment, dans des moments de crise, où tous les enfants du Mali doivent s'asseoir ensemble et essayer de trouver une solution face à ce péril qui menace le pays. Donc on est loin de la paix, là, j'ai l'impression.
Donc je vous comprends. Je sais qu'on est loin de la paix, mais nous sommes en train de faire des pas dans ce sens. Parce que, vous savez, le Mali est habitué à des accords qui ne sont pas souvent respectés. Mais nous, on est en train de faire en sorte que les dispositions que nous avons mises dans cet accord, que ces dispositions d'une manière intelligente, d'une manière pratique, qu'il y ait un consensus par rapport à sa mise en œuvre. C'est ce qui fait que souvent les gens ont l'impression qu'il y a trop de lenteur. Mais aujourd'hui, l'un des avantages de cet accord, maintenant, c'est que plus, depuis la signature de cet accord, je dis peut-être les premières heures qui ont suivi, quand même un groupe armé politiquement n'a pas eu à ouvrir le feu sur l'armée malienne. Ça, il faut bien le noter. Et au Mali, c'est qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont pris des armes contre l'État du Mali. Et des hommes et des femmes aussi se sont opposés face à cette situation. Mais l'État du Mali est en train de travailler à réguler cette situation pour qu'il y ait une situation d'apaisement social.
Vous savez, je souhaite vraiment que ce débat soit un débat concret. Voilà plus d'une année que le gouvernement du Mali a signé un accord avec les groupes armés. Ce que nous souhaitons savoir, c'est qu'au stade actuel des choses, où est-ce qu'on en est par rapport à sa mise en œuvre? Parce que pour nous, nous sommes face à un flou total. Nous sommes face à l'incapacité des autorités à assurer non seulement la sécurité des Maliens, à assurer l'intégrité du territoire. Et à chaque fois, on nous renvoie à des réflexions du genre, on a demandé à Gamou de revenir parce que c'est un général de l'armée, etc. On est face à des groupes qu'on n'arrive pas à maîtriser. Nous, ce qu'on veut savoir, au stade actuel des choses, où est-ce qu'on en est par rapport à la mise en œuvre? Où est-ce qu'on en est par rapport à l'intégration? Où est-ce qu'on en est par rapport au processus du DDR? C'est ça les vraies questions auxquelles vous devriez répondre. Maintenant, tout ce que vous racontez, vous dites que 3 ans, c'est pas un bilan, c'est une évaluation. Ok, allons-y, faisons une évaluation. La principale question aujourd'hui qui préoccupe les Maliens, c'est la question de la sécurité. Qui, au moment où vous arrivez au pouvoir, n'était pas à ce niveau-là? Vous conviendrez avec moi. Nous avons tendu la main, nous avons dit, par rapport à cette question précise, nous avons besoin de l'union sacrée de tous les Maliens. Parce qu'autrement, nous ne trouverons pas de solution. Et nous avons dit que la solution à ce problème ne peut être que politique. Et nous avons invité le président de la République à rassembler tous les Maliens, toutes les Maliennes autour de cette question-là pour que nous discutions. Mais qu'est-ce qu'il nous a répondu? Il nous a répondu qu'il a été élu par 77% des Maliens, il est au pouvoir, c'est lui le président de la République. Et bien voilà, aujourd'hui nous sommes, après 3 ans, face à une situation qui est pire que celle d'il y a 3 ans. Voilà. La question, pourquoi ?
Alors, Bouguiri, moi, je ne vais pas vous poser cette question, mais je me retrouve quand même que, je retrouve quand même que, quelque part, on est dans l'impasse par rapport à la mise en place, des autorités intérimaires qui a été annoncée. Je constate aussi que la rentrée scolaire tant annoncée à Kidal n'a pas vu le jour. Je me rends compte aujourd'hui que les Maliens continuent d'être dans les camps des réfugiés. Si on ne parvient pas à concrétiser l'accord, pourquoi ne pas mettre en place un mécanisme pour faciliter le retour de nos compatriotes?
Monsieur Traoré, d'abord, d'entrée de jeu, ce que je vais vous dire, vous savez, par rapport à cet accord, pour la première fois que la communauté internationale garantit un accord, et c'est cet accord. Donc, autant que...
Mais cette garantie ne nous fait pas bouger.
Justement. Parce que en signant cet accord, on est tous d'accord que le Mali n'avait pas toutes les ressources par rapport à la mise en œuvre. Mais il fallait aller à un accord qui pouvait permettre à ce que les lignes bougent au Mali. Et moi, je pense, il y a un comité de suivi qui est là. Et à chaque étape de la chose, qui communique par rapport à l'évolution de la situation. C'est ce que j'ai dit. Peut-être d'autres peuvent dire qu'il y a une lenteur par rapport à sa mise en œuvre. Mais
non,
quand même...
disons pas, c'est un constat.
S'il vous plaît. Des sites ont été identifiés. Il a parlé des DDR. Les 12 sites qui ont été identifiés pour les DDR. Et 4 ont été déjà construits. Et 4 autres sont en chantier qui doivent finir très bientôt. Et je pense déjà la liste des soldats qui doivent être recasés, sinon je dirais recensés à ce niveau, le travail a été déjà fait. Et moi je pense que les choses sont en train d'évoluer d'une manière positive, mais avec garantie et précaution. Parce qu'il ne faut pas que en voulant aller trop vite aussi à la paix, qu'on risque de se retrouver à la case de départ. Vous savez, durant tout le processus de l'accord d'Alger, M. Yad était invité. Malheureusement, il n'était pas là. Et il n'a jamais accepté cet accord. Mais nous pensons
vous êtes,
que...
Vous êtes en train de dire que le gouvernement a invité Yad à la table de négociation?
S'il vous plaît.
Non, c'est... je veux savoir, parce que les Maliens nous écoutent.
C'est tous les Maliens, tous ceux qui se reconnaissent Maliens, patriotes, laïcs, républicains, c'est eux qui ont été invités à venir à Alger pour s'exprimer par rapport à la crise dont le Mali faisait face.
Non, ce que je veux savoir,
s'il vous plaît.
Est-ce que Yad Agali a été invité par les autorités maliennes à participer au processus de négociation?
J'ai dit et je répète, le gouvernement du Mali a lancé un appel à tous les Maliens patriotes capable de venir discuter par rapport à la situation qui prévaut au nord du Mali. Et en son temps, je pense que tous ceux qui se sont sentis maliens, tous ceux qui avaient des revendications politiques pour le Mali ont répondu à l'appel. Et moi, je pense que ceux qui ont raté ce rendez-vous, je ne peux pas les inscrire sur l'agenda des Maliens patriotes. Je ne peux pas les inscrire sur l'agenda des Maliens qui ont pensé à un projet de développement pour leur communauté, à un projet d'espoir de lueur pour les enfants de ces localités qui en ont tant besoin. Aujourd'hui, M. Traoré disait, l'école n'est pas à Kidal. Mais quand même, tout le monde reconnaît que l'État a manifesté une réelle volonté d'instaurer l'école. Maintenant, qui bloque et pourquoi il bloque? Mais nous pensons qu'il est de notre devoir d'user de tous nos moyens pour faire en sorte que demain, l'école soit à Kidal. Et je pense, si ça ne tenait qu'à l'État malien aujourd'hui, demain, les classes seront ouvertes à Kidal comme partout sur l'ensemble du territoire.
Vous êtes incapable, l'État
c'est
est pas incapable
que nous,
de le faire.
C'est pas que nous sommes incapables, s'il te plaît. C'est pas que nous sommes incapables.
Vous avez dit, si ça ne
tenait
qu'à vous...
Nous sommes dans un processus de consensus. Et le comité de suivi, par rapport à toute action que nous devrions poser, d'abord, ça, il doit y avoir des préalables. On discute, on s'accorde sur certaines choses. Et quand les conditions requises ne sont pas là, il serait difficile de manifester, comment dirais-je, d'opérer ces choses-là. Et je pense que à Kidal, c'est le problème qui existe encore par rapport à l'ouverture des classes.
Alors, je rappelle tout simplement aux auditeurs qui suivent une émission spéciale par rapport aux 3 ans du président Ibeka. L'aspect sécuritaire est au menu avec comme invité Alousseni Abba Maïga, qui est du parti phare, 4e vice-président, M. Bouguiri Mamadou Diarra, qui est de l'UMRDA, président de la jeunesse, Idrissa Fall, qui est sur ce plateau pour faire des contributions, mais aussi poser des questions. Alors, on est à quelques mois de la date qui a été annoncée par le gouvernement, même si le ministre qui l'a annoncé est devenu ministre de la Défense. Les élections communales, le 20 novembre, Abba, selon vous, vit la situation sur le terrain possible?
La question que j'ai envie de poser, c'est que les conditions qui ont justifié le report, c'est-à-dire l'insécurité dans le centre et dans le nord du pays. Le flou institutionnel et politique par rapport à la loi électorale, ce sont ces conditions qui ont justifié le report. Est-ce que ces conditions sont réunies pour la tenue d'une prochaine élection? C'est cette question-là que j'ai envie de poser au ministre. Eh bien, non. Vous le savez autant que moi, non. Vous savez autant que moi qu'il y a un projet de loi qui est sur la table de l'Assemblée nationale, loi électorale. Est-ce que ce projet de loi qu'on dépose sur la table de l'Assemblée nationale, est-ce que ce projet de loi peut être prêt pour conduire les élections dans 2 mois? C'est la question que j'ai envie de poser. Et j'ai l'impression que le gouvernement est en train de jouer à la politique de l'autruche. C'est de programmer un agenda électoral, sachant très bien que les conditions ne sont pas réunies pour, et d'attendre que la classe politique réagisse pour dire que non. La première fois, ils ont joué au même jeu. La deuxième fois, ils ont fait la même chose. Et la troisième fois, ils sont en train d'user des mêmes stratégies. Moi, j'ai dit attention.
Donc le 20 novembre n'est pas tenable pour les communales?
J'ai envie de répondre non. Parce qu'aujourd'hui, les mêmes conditions qui ont prévalu au premier report, au premier et au deuxième report, règnent aujourd'hui sur le terrain. Est-ce que l'État est capable d'organiser les élections dans la région de Tombouctou et de Kidal et de Gao?
Et à Nampala.
Et à Boni. C'est la question. Est-ce que l'État, la puissance publique, la puissance est présente partout sur l'étendue du territoire pour que les élections soient
organisées? Alors, Bougri, en quelques minutes, hein, parce qu'on est presque au terme de cette émission. Est-ce possible de tenir les communales?
Justement, c'est juste pour rappeler à M. Maïga que c'est la deuxième fois que le gouvernement de la République du Mali convoque le collège électoral. Le collège électoral n'a été convoqué qu'une seule fois. Et c'est face à une demande générale de l'ensemble de la classe politique et des partenaires qu'il y a eu un premier report. Et la date du 20 est tenable en ce sens que là où on ne va pas tenir d'élection, soyez convaincus que demain, il y aura des autorités intérimaires à ce niveau. Donc l'État du Mali a pris les dispositions. Au niveau des collectivités, il n'y aura plus de vide institutionnel à ce niveau.
Est-ce que vous savez les zones où les élections ne pourront pas être tenues? Parce que vous venez de dire vous-même que là où les élections ne seront pas tenues, mais il y aura des autorités intérimaires.
Justement.
Ça veut dire que si demain à Bougouni, on n'est pas capable de tenir les élections, à Bougouni, il y aura des autorités intérimaires.
Mais le ministre l'a dit à qui veut l'entendre. Il y a eu des textes pour ça. Ça a été voté par l'Assemblée nationale.
Ah non, l'Assemblée n'a pas voté.
S'il vous plaît.
Vous avez fait une entente en catimini. L'Assemblée n'a pas voté.
Ce n'est pas que.
Vous avez fait une entente.
S'il vous plaît.
Quand les Maliens ont réagi.
Ce n'est pas que l'attente.
Les Maliens ont réagi aux autorités intérimaires pour dire que non. En l'état, ce que vous voulez faire n'est pas faisable. Rappelez-vous les manifestations à Gao, etc. Et que l'Assemblée nationale a rejeté votre projet. Vous avez en catimini fait une entente avec les groupes armés. Entente dont les Maliens ne sont même pas au courant du contenu.
Monsieur Maïga,
c'est gérer un pays.
Excusez-moi.
Il faut au moins avoir le courage de dire aux Maliens ce que vous avez l'intention de faire.
Monsieur Maïga.
Comme ça, on vous dira si on est d'accord ou pas.
Excusez-moi. Il y a juste 2 semaines, j'étais avec Monsieur Kone, Souleymane Kone, au niveau du gouvernorat du district de Bamako, où justement on a été reçu par le ministre par rapport à ces questions. Et le ministre a été clair devant Monsieur Kone en lui disant, Monsieur Kone, je vous suis. Je mets à défi qui veut occuper sur l'ensemble du territoire, me prouver autre texte qui existe en marge de ce que je vous ai remis. Et je pense qu'il a tous les textes légaux et légitimes à ce niveau.
Mais on ne peut pas les avoir parce que vous les avez fait en catimini.
C'est pas
qu'on est au courant.
Demandez à M. Kone. On lui a remis officiellement les textes régissant la mise en place des autorités intérimaires. Et qui était le représentant de l'opposition.
Nous sommes sur un plateau et les Maliens nous écoutent.
Justement. Moi je sais ce que j'ai dit. Monsieur Kone s'est levé dans la salle pour s'adresser directement à Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, et là où nous ne pourrions pas tenir les élections, qu'est-ce que nous allons faire? Il dit, vous avez des textes, je ne ferai qu'appliquer les textes. Mettre en place les autorités intérimaires là où ça ne serait pas possible. C'est aussi simple que ça.
Donc vous allez faire les élections par à-coup, et lorsque vous vous rendrez compte que ces élections ne sont pas possibles, vous allez décider de mettre en place les autorités intérimaires.
Les autorités intérimaires, c'est pour l'ensemble du territoire malien.
Alors, vos derniers mots, je vais passer la parole à M. Bougri, parce qu'on est presque au terme de cette émission. L'espoir est permis, et toujours, par rapport aux 3 ans, même si toutes les questions ne sont pas épuisées.
Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, je suis très heureux d'être sur le plateau de VOA Afrique pour dire à l'ensemble de nos compatriotes et à la communauté internationale qu'aujourd'hui, le Mali est dans la dynamique d'un processus de paix et de réconciliation. Vous ne vous êtes pas trompé en 2012, en 2013, en choisissant ce président, son Excellence, Monsieur le Président.
Merci beaucoup, Monsieur Bougouri.
Ce que j'ai envie de dire très rapidement, c'est que c'est dommage que nous n'ayons pas eu assez de temps pour discuter de toutes les questions, mais j'espère que la prochaine fois nous le ferons. Nous constatons simplement qu'après 3 ans, ce régime, au lieu de s'occuper des vrais problèmes des Maliens, se livre à des promesses. Nous avons l'impression qu'on est en campagne électorale. C'est vous qui êtes au pouvoir. On vous a confié ce pays. Vous-même, vous aimez à le dire souvent, 77% des Maliens vous ont élus. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas compris le message. Le message, c'est de vous donner la légitimité, le pouvoir nécessaire pour agir, pour changer ce pays. Au lieu de cela, vous continuez à nous faire des promesses. Maintenant, nous, l'opposition, face à cette incapacité à gérer les affaires publiques, nous vous avons tendu la main. Nous avons dit la chose suivante, concertation nationale, pour que l'ensemble des Maliens, toutes les forces vives du Mali, la classe politique, la société civile, les groupes armés, que nous nous mettions autour d'une table. Parce que manifestement, vous avez échoué.
Merci beaucoup Idriss Fall. Merci à nos invités, Bougouri Mamadou Diarra de l'UMRDA, Alfousseni Abba Maïga du Parti FAR, et à très bientôt sur la Voix de l'Amérique pour le studio à partir de Bamako pour d'autres émissions.
Et c'est la fin de ce magazine spécial sur le Mali. Merci de votre oreille attentive et merci surtout à Kassim Traoré et à Idriss Fall qui ont contribué à sa réalisation. À Washington, Eric Manilakiza vous dit au revoir. La mise en onde était assurée par Lionel Lunanila-Gahim.